VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Bangui en Centrafrique. Bonjour à tous. Déchiré par des violences entre communautés depuis 3 ans, la République centrafricaine va bientôt avoir de nouveaux dirigeants. Quelques 2 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes hier pour la présidentielle et les législatives, une étape cruciale pour mettre un terme à la transition dans le pays. Retour sur cette échéance importante avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Il y a encore quelques mois, personne n'aurait pu imaginer des élections dans ce pays dont la grande partie est toujours sous contrôle des groupes armés. Ce 30 décembre, comme par enchantement, les plus de 2 millions d'électeurs centrafricains ont pu voter sur l'ensemble du pays et dans le calme. À Bangui, tous attendent un changement radical à l'issue de ces élections.
Oui, je suis content de voter, car c'est un devoir pour moi de voter. Mais j'attends un changement radical pour que la RCA se développe normalement.
Je suis content d'avoir voté, parce que nous voulons un changement radical pour que nous puissions vaguer à nos occupations normalement.
Quels que soient les résultats, je dois être fier pour que mon pays soit développé davantage.
Ça fait 3 ans en Soudan, notre pays, il y a des tueries et puis ça ne va pas. Donc il faut un changement pour que nous soyons heureux dans notre pays.
Aucune violence n'a été rapportée sur l'ensemble du territoire centrafricain. Toutefois, le scrutin est entaché de nombreux dysfonctionnements allant du déploiement très en retard du matériel électoral dans les bureaux de vote au manque de certains documents, à l'exemple des bulletins de vote pour les législatives, de certaines lettres alphabétiques disparues de la liste électorale. Conséquence, certains candidats à la députation demandent purement et simplement l'annulation des législatives. Des difficultés relevées par Souleymane Dene Ndiaye, chef de mission de l'Observation électorale de l'Union africaine pour ce scrutin.
Cette forte mobilisation est le témoignage que les populations centrafricaines voudraient en finir avec la transition et passer à autre chose. Maintenant, nous venons de constater qu'un des bureaux où sont inscrits beaucoup de personnes n'a pas encore ouvert, ou du moins n'est pas encore doté du matériel électoral. Et les électeurs sont inquiets, ils se posent des questions. Alors, l'heure prévue pour l'ouverture des bureaux, c'était 6h du matin. Nous, à 6h, on était au 8e arrondissement. Vous savez, on peut toujours prévoir de démarrer une activité à une heure précise et sans avoir les moyens de le faire.
Alors que des contestations commencent déjà à naître, le chef de mission de l'Observation électorale de l'Union africaine assure qu'au stade actuel, aucun élément ne permet de remettre en cause la crédibilité de ces élections.
Ah oui, absolument, absolument. Je n'ai pas encore un élément qui me permette de croire que ces élections ne sont pas crédibles. Je pense que les élections sont parfaitement crédibles.
Les résultats partiels du scrutin présidentiel sont attendus dans les 6 prochains jours selon le code électoral avant la proclamation finale par la Cour constitutionnelle de transition dans les 15 jours suivant la date du vote. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En République du Congo-Brazzaville, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 20 mars prochain. Le gouvernement congolais a avancé la date sur décision du président Denis Sassou Nguesso. Précision, Eddy Sango.
Le Conseil des ministres a décidé de convoquer les corps électoraux le dimanche 20 mars 2016 pour le premier tour de l'élection du président de la République sur toute l'étendue du territoire national, indique les comptes rendus d'un Conseil des ministres tenu hier à Brazzaville. Le président Sassou Nguesso avait annoncé dans un discours devant les congrès le 22 décembre que la date de la présidentielle sera avancée au premier trimestre de 2016. Mais il n'a donné aucune raison de ces changements de date. La présidentielle devait plutôt avoir lieu en juillet, selon la nouvelle constitution votée au référendum du 25 octobre dernier, que l'opposition a boycotté dans sa majorité. Le gouvernement a soumis au Parlement l'adoption d'une loi électorale qui prévoit, entre autres, la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante, CENI, qui figure parmi les nombreuses exigences de l'opposition. La nouvelle constitution a fait sauter les 2 verrous interdisant à M. Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat présidentiel en 2016. La limite d'âge est celle du nombre des mandats. Âgé de 72 ans, M. Sassou Nguesso, qui a passé 31 ans à la tête du Congo, n'a toujours pas annoncé sa candidature pour la présidentielle, mais ses partisans n'y s'en cachent pas.
11h04 à Ouagadougou.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Après l'investiture du président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, la mise en place des institutions du Faso s'est poursuivie avec l'élection de Salif Diallo au poste de président de l'Assemblée nationale. Salif Diallo est vice-président du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti majoritaire à Ouagadougou. Retrouvons notre correspondant Zoumana Wonogo.
Le nom de Salif Diallo, vice-président et directeur de campagne du Roch Kabore, était fortement cité. Eh bien, cela a été confirmé ce mercredi. On écoute René Lompo, le doyen d'âge qui a présidé la session d'ouverture de l'Assemblée nationale.
Soso Adama, 43 pour. Diallo Salifou, 78 pour. Donc, le député Diallo Salifou est élu président de l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans.
Le nouveau président de l'Assemblée nationale, à l'endroit des députés, a fait cette adresse préventive.
Le but est dans chaque pas. Aujourd'hui, c'est un pas que nous effectuons. Et ce pas doit tendre vers le but qui est la défense des intérêts supérieurs de notre pays. Dans la séparation des pouvoirs, notre institution a pour mission de voter les lois, de lever l'impôt et surtout de contrôler l'action gouvernementale. Si notre auguste assemblée venait à se démarquer des intérêts populaires, nous connaîtrons un sort plus triste que nos devanciers.
Le dernier acte pour le retour à une vie constitutionnelle normale au Faso reste la nomination d'un premier ministre pour la formation du gouvernement. Là aussi, le nom de Bissiri Joseph Sirima, ancien patron du MCA Burkina, revient en boucle. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, le gouvernement est prêt à négocier avec le mouvement islamiste Boko Haram pour la libération des 200 jeunes filles de Chibok. Le président Muhammadu Buhari a précisé qu'il était à la recherche de contacts crédibles au sein du mouvement terroriste qui puissent confirmer que les jeunes filles étaient toujours en vie. Au Mali, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont autorisé la prorogation jusqu'au 31 mars de l'état d'urgence, déjà instauré à deux reprises depuis l'attentat djihadiste contre l'hôtel Radisson de Bamako en novembre dernier. Cette prorogation a été votée en Conseil des ministres en raison des menaces graves sur la sécurité des personnes et de leurs biens, selon un communiqué officiel. Deux policières rwandaises de la mission des Nations Unies pour la stabilisation à Haïti, la MINUSTA, ont été assassinées à Cap-Haïtien. La deuxième ville du pays, ont annoncé aujourd'hui la MINUSTA et la police rwandaise. Les victimes ont été tuées par balle à leur domicile par des agresseurs non identifiés dans la nuit de mardi à mercredi, a précisé la police rwandaise.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Syrie, au moins 16 personnes ont été tuées et 30 blessées hier soir dans des attentats contre trois restaurants de Kamechli, une ville du nord-est du pays, selon un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces attentats ont été revendiqués par le groupe État islamique. Les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre des entreprises et individus qui auraient œuvré notamment en Iran au développement du programme des missiles balistiques de Téhéran, selon le Wall Street Journal. Il s'agirait d'une première depuis l'accord sur le programme nucléaire conclu le 14 juillet à Vienne entre les grandes puissances et Téhéran. Et puis, face aux menaces terroristes qui pèsent sur les fêtes du Nouvel An, Bruxelles, en Belgique, a décidé d'annuler tous les événements de fin d'année. Dans plusieurs pays, les forces de l'ordre ont été placées en alerte maximale, comme en Turquie, où un attentat suicide aurait été déjoué à Ankara. Les mesures de sécurité ont aussi été renforcées dans plusieurs autres pays, comme en Autriche et en Russie, après les attentats djihadistes du 13 novembre à Paris, ville qui sera placée sous haute protection policière. Et je vous le disais tantôt dans ce journal, au Nigeria, le gouvernement est prêt à négocier avec le mouvement islamiste Boko Haram pour la libération des 200 jeunes filles de Chibok. Le président Muhammadu Buhari a précisé qu'ils étaient à la recherche de contacts crédibles au sein du mouvement terroriste qui puisse confirmer que les jeunes filles étaient toujours en vie. Un total de 276 jeunes filles avaient été enlevées le 14 avril 2014 par Boko Haram alors qu'elles se préparaient à passer des examens scolaires à Chibok dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, berceau du groupe islamiste. Et pour finir, deux policières rwandaises de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la ministre a été assassinée à Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays, ont annoncé aujourd'hui les autorités rwandaises et la ministre. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque. Et bonne année à tous en compagnie de la VOA.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.